Radio Okapi.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute. Voici votre journal d'information. On commence tout de suite avec le grand titre de ce midi. Crise dans l'est de la RDC, l'Afrique se mobilise. Réunis à Addis Abeba, les dirigeants de l'EAC et de la SADC lancent une initiative de paix africaine pour mettre fin à un conflit meurtrier. Djougou en Ituri, l'écho d'écho frappe encore sur la RN27. 8 véhicules pris pour cible, une femme enlevée et le trafic paralysé dans une nouvelle attaque près de Pont Djou. Invité du journal, Dr Foreman Mabala, directeur général de l'hôpital Jason Sendwe et initiateur du Carrefour international d'anesthésie et des réanimations et des urgences. Il nous parle de la place stratégique de l'anesthésie et de la réanimation dans le soin médical et du potentiel médical congolais à valoriser sur la scène internationale. Gisèle Cage à la présentation. C'est par un dossier brûlant que nous ouvrons ce journal. La crise dans l'Est de la RDC, un sommet conjoint entre la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, s'est tenu ce vendredi à Addis Abeba en Éthiopie. Objectif, lancer une initiative de paix 100% africaine face à un conflit qui continue de faire de ravages et a déjà coûté la vie à des milliers de personnes. Les détails avec Jean Gandou.
Lors d'une réunion avec des représentants de l'Union africaine et des États membres pour discuter de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, indique Africa News, William Ruto du Kenya et le président Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe ont pris l'initiative de fusionner les structures des médiations et des secrétariats de la CAE, Communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe et de l'Union africaine en une initiative unifiée dirigée par l'Union africaine à Addis Abeba. Le président Ruto a déclaré lors de la réunion qu'il existe désormais un processus mené par l'Afrique qui rassemble Nairobi, Luanda et toute autre initiative en un processus cohérent sur la situation dans l'Est de la RDC, a-t-il déclaré, qualifiant la situation actuelle de désastreuse. Il existe une situation humanitaire, une situation sécuritaire grave et une instabilité qui touche l'Est de la RDC, la RDC et les Rwandais, mais aussi toute la région, a-t-il souligné. Pour rappel, en juillet, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont signé avec la RDC une déclaration des principe pour un cessez-le-feu permanent dans l'est du Congo, où les tensions ethniques et la quête des riches minerais ont donné lieu à l'un des conflits les plus longs d'Afrique, faisant des milliers de morts cette année, conclut Africa News.
Page sécuritaire, direction l'Ituri. Vendredi, 8 véhicules sont tombés dans une embuscade tendue par des éléments incontrôlés de la milice Codeco près du pont Djou au village Boubou dans les territoires de Djougou. Selon des sources sécuritaires, les assaillants ont pillé plusieurs biens de valeur appartenant aux passagers et ont pris en otage une femme d'une trentaine d'années. Conséquence directe, le trafic sur la route nationale 27 est fortement perturbé. Récit signé Martial.
C'est vers 12h local que les premiers véhicules de transport en commun à provenance de Bounia à destination de Mahagi sont tombés dans une embuscade des hommes armés de la Codeco. C'était précisément au niveau du pont Djou, situé au village Boubukan, un plateau à 1 km de Djougou Centre sur la route nationale numéro 27. Des sources sécuritaires rapportent que 5 autres véhicules en provenance de Mahagi avec des marchandises et passagers à bord ont également été arrêtés au même endroit par ces miliciens qui ont tiré des coup de feu pour créer l'abscose. Des téléphones, plus de 4 000 $ américains et des marchandises ont été importés par ces malfrats. Une femme qui s'est trouvée à bord d'un taxi a été prise en otage et ramenée dans la brousse vers le village de Gokpa, en secteur de Walendoujatsi. Vers Iga Barrière, deux miliciens du groupe Zahir CRP exigeraient un montant de 50 à 100 $ américains au véhicule pour obtenir les passages, selon des témoignages de plusieurs usagers. Depuis ce samedi matin, les FRDC ont investi investi les centres giga barrières dans l'objectif d'imposer l'autorité de l'État sur la RN27, indique les porte-parole de l'armée. Bougnard, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Quittons l'Ituri pour le Sud Kivu. Ce samedi, de nouveaux combats ont éclaté entre le rebelle du M23 AFC RDF et le Ouazalendo dans le village de Kamakombe, territoire de Kabaré. Ces violences surviennent malgré l'accord de cesser le feu signé à Doha entre le gouvernement congolais et le représentant du M23. Une situation qui suscite l'indignation des acteurs de la société civile locale. Les détails avec Ronéline Timbonera.
Il était 1h du matin, c'est samedi, lorsque le premier tir a retenti à Kamakombe, dans le groupement de Bougoré, territoire des Kabaré. Le rebelle du M23 AFC RDF ont lancé une attaque contre le village, ciblant les positions de Ouazalendo du mouvement décisif de la libération du Congo. Après une brève occupation de la moitié du village par les assaillants, les Ouazalendo sont parvenus à repousser les rebelles sur les hauteurs de Kavumu, toujours dans le même secteur. Des sources locales font état d'une riposte déterminée de Ouazalendo qui affirme vouloir poursuivre le M23 jusqu'au village de Katana situé plus au nord. Et ce n'est pas tout. Dans le territoire voisin de Walungu, une autre attaque attribuée au M23 a visé le sous-groupement de Muzinzi ce même samedi. Là encore, les rebelles se sont heurtés à une résistance farouche des Ouazalendo. Des morts et des blessés sont à déplorer selon plusieurs sources sur place. Un regain de violence qui inquiète les acteurs de la société civile alors qu'un accord de principe censé instaurer un cessez-le-feu avait été signé il y a quelques semaines à Doha.
Nord Kivu, par contre, bonne nouvelle, les deux agents humanitaires enlevés jeudi à Sake, dont les territoires de Massissi ont été libérés ce vendredi par leurs ravisseurs. L'information a été confirmée par le curé de la paroisse catholique Miséricorde Divine de Sake. Les faits, les deux humanitaires avaient été kidnappés dans l'enceinte même de la paroisse où ils logeaient après une mission de terrain. Leur libération a été obtenue à l'issue des discussions entre les ravisseurs et les autorités locale. Leur réaction sur place, l'abbé Joseph Mbembeleza, curé de la paroisse, salue cette libération mais reste préoccupé par l'insécurité persistante dans le groupement Kamuronza où les déplacés continuent de vivre dans la peur malgré leur retour. On l'écoute.
Les deux chauffeurs de la Caritas ont beaucoup souffert. Nous plaidons auprès des autorités de nous donner la paix. Parce que les habitants de Sake ont passé environ une année en déplacement, alors que nous sommes retournés, nous avons tout perdu, nous n'avons rien et la vie reprend à zéro. Nous avons besoin de la paix. Que les autorités nous donnent cette paix pour le développement de notre cité de Sake en général et dans notre paroisse en particulier. À la population, nous leur demandons la persévérance, car rien ne peut durer éternellement. Tout ce que nous traversons arrivera toujours un moment où nous aurons la paix. Nous leur demandons de garder espoir car rien n'est éternel.
Tension dans les lois là-bas. Jeudi dernier, des eaux chauffourées ont éclaté entre les éléments des FARDC de la 22e région militaire et ceux de la garde républicaine dans la cité de Kisankala, territoire de Mouchacha. Selon la nouvelle société civile des Kinsanfu et ses environs, les conflits seraient liés au contrôle d'un site minier exploité par des creuseurs artisanaux situés dans la concession de l'entreprise Comidé. Ce vendredi, les éléments de la garde républicaine ont finalement pris le contrôle du site. Les précisions avec Paulin Munanga.
Dans la soirée de ce mercredi, des camions transportant des éléments de la garde républicaine ont investi la concession Comidé, fait savoir la nouvelle société civile. Et dans la matinée de ce jeudi, ces éléments ont voulu relever de leur poste les militaires des FARDC de la 22e région militaire qui gardait la colline dénommée Sierra, exploitée par des creuseurs artisanaux et qui se trouve dans la concession de l'entreprise minière Comidé. Les militaires des FARDC n'ont pas voulu céder. C'est ainsi que des échauffourées ont éclaté entre les deux parties, souligne la société civile. Face à cette situation, les creuseurs artisanaux se sont soulevés. Témoignage du coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise à Kisanfu et ses environs, Deogracias Yambenu.
La journée de jeudi, c'était paralysé, même les villages étaient paralysés, parce qu'ils ont brûlé des pneus sur la route Kisanfu-Kisankala. Mais la journée d'hier, vendredi, les creuseurs ont travaillé et même moi-même, même j'étais là. C'est vers 16h qu'il y a eu maintenant déploiement des éléments de la garde républicaine.
Les éléments des FARDC qui étaient des gardes sur les sites des comités se sont finalement retirés, laissant la place à la garde républicaine. Nos efforts pour joindre les autorités politico-militaires de la province du Lualaba n'ont pas abouti. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Kinshasa, l'insécurité frappe encore, pas de répit pour les habitants du quartier Badiadingi dans la commune de Selimbao. Des bandits armés sèment la terreur et le dernier épisode remonte à jeudi soir sur une seule avenue. Au moins 7 familles ont été attaquées par des hommes armés vêtus de l'uniforme de police. Les bilans est lourd. Une candidate à l'examen d'état a été tuée, son père grièvement blessé par balle. Une autre jeune fille a été victime d'un viol collectif. La police a ouvert une enquête. Le bourgmestre de Selimbao, Mathias Womumu, s'est exprimé sur ces événements tragiques et les mesures sont prises pour sécuriser le quartier. Il est au micro de Babel Pongo Massimango, on l'écoute.
Sur l'avenue Potopange, dans une des familles, ils ont violé une fille de 20 ans par cette personne. La fille est prise en charge à l'hôpital sanatorium. Et dans une autre parcelle, ils ont pillé l'argent. Après, ils ont tiré sur le propriétaire de la parcelle. Une balle a atteint sa fille de 17 ans, qui était même au dernier jour de son examen d'état. Et la fille a succombé sur place. Le propriétaire est hospitalisé. Sa vie n'est plus en danger. Nous sommes descendus sur place avec le PCRIM. Après, on a tenu une réunion du conseil de sécurité à la commune et on a pris la décision de placer un poste de police parce que quand ils ont fait l'exécution, ils ont appelé la police, mais la police était venue en retard parce qu'il y avait peu la distance entre la résidence et le poste de police. Un professeur a accepté de nous construire ce poste de police dans un bref délai dans l'endroit où nous avons choisi pour assurer la sécurité dans cette partie de la commune.
Et puis un fait troublant survenu vendredi matin à Badiadingi. Un policier a été battu à mort par des habitants en colère. Selon le bourgmestre, l'homme s'est serré présenté sur les lieux du drame vers 3h du matin, prétendant avoir oublié quelque chose lors d'une patrouille la veille sur place. Une jaquette avait été abandonnée par l'un des bandits. Les habitants ont rapidement fait le lien et la situation a dégénéré. Tchopo, dans toute la province, la chasse aux gibiers et aux oiseaux à poils comme à plumes est désormais interdite. La mesure a été prise par le gouverneur intérimaire Didier Lomoyo Itekou à travers un arrêté signé hier vendredi 1er août. Cette interdiction court jusqu'au 30 novembre 2025 avec un objectif clair, permettre à la faune de se reproduire dans un environnement plus calme et protégé. Le point avec Jacques Mokonkole.
En prenant cet arrêté, l'autorité provinciale manifeste son engagement à lutter pour la préservation de la biodiversité. Ainsi, pendant cette période de fermeture de la chasse, aucune vente, aucun achat, ni aucune commercialisation de la viande des brousses ne sont autorisées. Par ailleurs, la circulation des armes à feu, des cartouches de chasse et des câbles servant de piège est également interdite. Toutefois, une exception est faite pour les échanges traditionnels ou des pratiques coutumières. Cela à titre exceptionnel, dans certaines communautés autochtones, précise l'arrêté provincial. La fermeture de la chasse intervient dans un contexte de surexploitation mettant en péril des espèces déjà vulnérables. Cette période de fermeture devra permettre donc à la population animale de se reproduire dans un environnement moins perturbé. Enfin, l'arrêté rappelle aux récalcitrants qu'ils s'exposent à la rigueur de la loi. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Cérémonie de reconnaissance à Kinshasa. Jeudi dernier, une vingtaine d'agents de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire élevant de la division État de droit et institutions de sécurité ont reçu leur médaille de mérite. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, de responsables de la mission onusienne, d'autorités judiciaires et militaires ainsi que de représentants de plusieurs missions diplomatiques. Maria Ngoya et Sidévi Mwadi étaient sur place. Suivez leur reportage.
Plusieurs officiers ont reçu leur médaille pour leur service, leur discipline et leur engagement dans les établissements pénitentiaires. Le ministre de la Justice, Samuel Mbemba Kabuya, les encourage.
Je leur ai adressé un message de gratitude de la part du peuple congolais, mais aussi un message d'encouragement. C'est ainsi que, à la fin de mon discours, j'ai souhaité longue vie à la coopération internationale.
Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies au Congo, souligne l'importance de cette activité.
C'est une cérémonie très importante. Ça donne une reconnaissance et une motivation, non seulement au pays qui contribue, le personnel qui vient appuyer le ministère de la Justice et en particulier le système pénitentiaire, pour donner leur expertise et travailler en partenariat avec leurs collègues congolais.
L'un des récipiendaires exprime la valeur que cette médaille a pour lui.
Cette médaille représente d'abord une reconnaissance et l'effort consenti ensemble avec les autorités pénitentiaires.
Une reconnaissance symbolique qui met en lumière le rôle des officiers pénitentiaires dans l'appareil judiciaire congolais.
Éducation en Ituri, une session spéciale du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP annoncée du lundi au mardi 5 août 2025 dans la province éducationnelle Ituri 1. L'annonce a été faite par le directeur provincial de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté à travers un communiqué officiel. Cette session concerne uniquement des milliers d'élèves du territoire de Djougou qui n'avaient pas pu passer l'examen en raison de l'insécurité dans leur milieu. Le point avec Kaki Akiwa.
Au total, 4508 élèves de la 8e éducation des bases sont concernés par ces épreuves. Dans son communiqué, le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Ituri 1, demande à tous les parents de faire identifier leurs enfants qui ont raté ces tests nationaux au bureau de la sous-division ou du pôle secondaire. C'est là pour permettre à ces services de bien orienter ces élèves dans les différents centres. Une décision saluée par l'association des parents d'élèves du Congo Anapeko, section de l'Ituri. Pour son président, le gouvernement a agi un bon responsable car il a écouté les cris d'alarme des parents de l'Ituri pour sauver l'année scolaire de ses élèves victimes d'activisme des groupes armés. Notons qu'un jour avant la tenue de ces tests, les élèves des 8e éducation des bases de la sous-division Djougou 1 et Nizi dans la région d'Iga Barrière, Lopa, Solenyama avaient pris la fuite à cause des affrontements survenus dans leur village entre les FRDC et les milices des GRP de Thomas Lubanga.
Actualité internationale. En Angola, après une semaine marquée par des affrontements meurtriers, le président João Lourenço s'est adressé à la nation ce vendredi. Dans son message, il a défendu l'action du gouvernement et a salué le travail des forces de l'ordre. Le bilan est lourd, au moins 22 morts et plus de 1200 arrestations lors des manifestations déclenchées par la hausse du prix du carburant. Le chef de l'État angolais a condamné fermement ce qu'il qualifie d'acte criminel et a présenté ses sincères condoléances aux familles endeuillées. Il a dénoncé des violences orchestrées, selon lui, par des citoyens irresponsables manipulés via les réseaux sociaux par des organisations antipatriotiques. João Lourenço a également salué le travail de la police, je venais de le dire, et de la justice et du personnel de santé, tout en reconnaissant que de nombreux défis sociaux restent à relever. Il a assuré que l'État fait de son mieux pour accélérer le développement et créer des emplois en Angola.
L'invité.
L'invité de ce journal, c'est le docteur Foreman Mabala, directeur général de l'hôpital Jason Sendwe. Il est aussi l'initiateur du Carrefour international d'anesthésie, de réanimation et des urgences. Avec lui, nous parlons de l'importance de l'anesthésie et de la réanimation dans la prise en charge des patients. Et en tant que porteur de cette initiative internationale, le docteur Mabala veut montrer au monde que la RDC regorge des compétences médicales capables de relever le grand défi loin des clichés souvent véhiculés. Il est au micro de Blaise Chindani Kambala. On l'écoute.
Bonjour docteur Foreman Mabala.
Bonjour monsieur Blaise Chindani.
Oui, dites-nous docteur, quelle est la place de l'anesthésie et réanimation dans l'administration des soins?
L'anesthésie occupe une place primordiale et surtout centrale dans l'administration des soins parce que l'anesthésie s'intervient dans tout les quatre disciplines clés dans médecine interne, pédiatrie, chirurgie et la gynécologie et dans d'autres, dans le laboratoire. Donc l'anesthésie a une place de choix dans la prise en charge de malades parce que vous avez quelqu'un qui involontairement à qui vous devez suspendre parfois la fonctionnalité de la vie normale et vous devez le remettre dans son état initial. Donc a une place très très prépondérante d'abord pour la prise en charge des affections chirurgicales et des cas graves qui nécessitent une intervention.
Beaucoup de malades meurent faute de l'administration abusive de l'anesthésie dans le corps. Comment pouvez-vous expliquer ça?
Vous appliquez l'anesthésie, vous devez être formé. Les malades se succèdent mais ne se ressemblent pas. C'est comme ça qu'il faut procéder par un bon screening, une bonne évaluation des malades, faire une consultation pré-anesthésique, classifier votre malade et vous pouvez avoir la chance. Mais notez bien que le risque zéro en anesthésie n'existe pas. Et il n'y a pas de petites anesthésies, il n'y a pas non plus de grandes. Donc toute anesthésie peut amener à la mort. Mais l'on peut prévenir cela par une bonne évaluation au préalable et des examens appropriés pour prévenir tous les risques et entrer à cela.
Et alors dites-nous docteur, quelle différence faites-vous entre l'anesthésie, la réanimation et les secourismes?
L'anesthésie, c'est un domaine, comme on vous l'a dit, c'est l'induction, c'est pour permettre en ce qu'il y ait insensibilité, que les malades soient immobiles pour des actions diagnostiques, interventionnelles et autres. La réanimation, c'est la restauration des fonctions vitales perdues suite à un incident, suite à une pathologie ou à un événement idiosyncrasique dont on ne connaît pas la chose. Mais les secourismes, c'est cette action immédiate et parfois sur terrain, que l'on doit poser pour un patient dont le pronostic vital serait déjà engagé.
Depuis bientôt 4 ans, vous organisez dans le cadre du Carrefour international d'anesthésie et réanimation et des urgences. Est-ce pour vulgariser cette discipline ou c'est pour renforcer les capacités du personnel soignant? Quel bilan pouvez-vous faire des éditions passées?
Le bilan est très positif parce que nous avons commencé faiblement, parce que l'objectif du CRU, du Carrefour international d'anesthésie et réanimation et des urgences, était de donner la chance que l'on comprenne qu'en République démocratique du Congo, il y a des gens qui travaillent. Parce que je fais partie des sociétés savantes externes, dont l'American Health Association. Quand on y allait là-bas, les gens s'étonnaient que nous venions du Congo. Alors nous avons voulu faire voir à nos amis qui étaient à l'extérieur qu'au Congo, il y a une vie. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes fiers de constater que même ces étrangers viennent apprendre l'anesthésie ici aux cliniques universitaires de Kinshasa et même chez nous là-bas à Lubumbashi. Et ça fait une fierté et c'est notre front diplomatique sanitaire pour permettre en ce que les Congolais puissent non seulement vendre leur pays positivement, puissent aussi valoriser les métiers qui a déjà donné beaucoup de fruits parce que la plupart des anesthésistes que l'on trouve à l'étranger viennent de la République démocratique du Congo.
Alors, pour la 4e édition qui commence bientôt, quelle pourra en être la spécificité par rapport aux éditions précédentes?
La spécificité, parce que cette fois-ci, le ministère national de la Santé, à travers le docteur Roger Samuel Kamba, tient à vraiment valoriser non seulement ces métiers, mais en fait avec tout le personnel soignant. Nous le savions tous, les chefs de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi a eu une rencontre avec tous les 26 gouverneurs à Kolwezi dernièrement et pendant ces temps, ils ont parlé plus sur les systèmes sanitaires. Alors, l'anesthésiste étant au centre à travers les CRU, le ministre national de la Santé Roger Samuel Kamba pourra faire une restitution et tous ensemble nous allons réfléchir comment relever les niveaux de notre système de santé en se basant aussi sur l'anesthésie. Cette fois-ci, nous aurons aussi la particularité de savoir que beaucoup de fabricants de matériel anesthésique pourront être de nôtres pour essayer d'échanger et il y aura des ateliers qui seront organisés au sein de l'hôpital Saint-Louis qui a un bon plateau technique pour le moment, afin d'apprendre aux jeunes certains réflexes que l'on peut faire le plus vite possible.
Docteur Foreman Mabala, directeur de l'hôpital Jason Saint-Louis, je vous dis merci beaucoup.
Merci Blaise Chidane.
Voilà, c'était le docteur Foreman Mabala. Il est directeur général de l'hôpital Jason Saint-Louis et initiateur du Carrefour international d'anesthésie, de réanimation et des urgences. Avec lui, nous avons exploré le rôle crucial de l'anesthésie et de la réanimation dans l'administration de soins, mais aussi l'ambition de valoriser les compétences médicales congolaises sur la scène internationale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir accompagnés à la présentation Gisèle Cage. Mise en onde, Alain Goy, coordination Jean Gandou. Pour des informations détaillées en temps réel, restez connectés à votre radio et à travers nos réseaux sociaux et consultez également notre site web officiel. Je vous retrouve demain à la même fréquence. Très bon week-end à toutes et à tous et excellente suite de programme sur Radio Capi.